Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. Bretagne 5. L'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Théo Thomas. Il est délégué départemental jeune du Rassemblement national du Morbihan. Il est également candidat RN-RPR au municipal à Lorient sur la liste Rassembler Lorient. Il a fait le chemin pour être avec nous ce matin au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité et bonjour à tous nos auditeurs.
Alors, on va parler des municipales, hein, vous l'aurez compris. Mais j'avais envie de vous entendre quand même sur ce qu'on appelle un peu la grande politique. Aujourd'hui, il y a un synonyme, ça s'appelle le chaos. On entend beaucoup de choses sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. On dirait un petit mot du budget. Vous qui êtes un jeune engagé en politique, comment vous voyez ce qui se passe? Comment vous ressentez ce qui se passe?
Je suis un petit peu comme 75% des jeunes aujourd'hui. C'est une statistique qui est parue. Cette idée que notre avenir est globalement obscur, et c'est pour cela qu'un grand nombre de jeunes aujourd'hui décident de s'investir au Rassemblement National. Nous l'avons vu encore une fois, hein, cet épisode du budget qui a été bien plus un exercice de compromission entre les différents groupes et que nous avons globalement rejeté, à quelques exceptions, typiquement la défense pour les motifs que l'on connaît. Donc encore une fois, nous avons un spectacle malheureusement décevant de la politique nationale, qui est le fait, encore une fois aussi, d'une dissolution qui a vu ensuite apparaître une série de compromissions entre les appareils politiques qui autrefois ne s'entendaient pas, le fameux UMPS qui s'est concrétisé en 2024. Donc oui, en tant que jeune et pour toute ma génération, eh bien c'est cette idée que le dernier espoir finalement pour notre génération, le dernier espoir crédible, est celui du Rassemblement National et de ses alliés.
Justement, j'allais vous poser la question, pourquoi vous êtes engagé finalement au Rassemblement National et pas avoir choisi une autre formation politique?
Alors en réalité, ce serait mentir que de dire que je n'avais pas choisi le Rassemblement National au départ. J'ai passé 7 ans au sein d'un autre parti, hein, les Républicains, et c'est au sein de cette formation que je me suis rendu compte, en fin de compte, que nous n'étions pas au service des Français. Les Républicains aujourd'hui, c'est un ensemble de barons qui essayent de se maintenir à tout prix. Nous l'avons encore vu en ce mois de décembre, avec un Bruno Retailleau et un Laurent Wauquiez qui sont même incapables d'être d'accord sur la ligne exacte à adopter pour eux. Donc oui, j'ai fait le choix du Rassemblement National, car j'estime aujourd'hui qu'il est le seul parti, sur le fond comme sur la forme, à réellement incarner le gaullisme, et aussi parce que Marine Le Pen et Jordan Bardella forment un binôme qui est redoutable et qui est surtout particulièrement fidèle aux convictions que nous voulons porter au pays. Donc c'est un gage de confiance, c'est un gage de qualité, et c'est pour cela que nous les suivons en tant que jeunes.
Alors souvent on entend justement du côté des Républicains des voix qui s'élèvent en disant oui, le Rassemblement National se définit comme gaulliste aujourd'hui, en tout cas porteur de valeurs gaullistes ou gaulliennes, alors que à ses débuts, ce qui était encore le FN a combattu le gaullisme. Est-ce que la page est tournée définitivement?
Écoutez, faisons un petit peu d'histoire. Vous prenez le Parti Radical aujourd'hui, Parti Centriste. Il y a environ un siècle, c'était un parti d'extrême gauche. Ce que je veux dire par là, c'est que les partis ne sont pas des monolithes qui ne bougent pas. Ils ont vocation aussi à évoluer. Et en ce sens, le Rassemblement National, aujourd'hui bien plus que LR, porte les valeurs gaullistes. Qu'est-ce que le gaullisme? Vous posez la question à Bruno Retailleau, vous posez la question à François-Xavier Bellamy, ils vont vous sortir les grands anathèmes, l'étiquette, mais ils sont bien incapables non seulement de vous démontrer qu'ils sont gaullistes, mais aussi de l'incarner au quotidien. Le gaullisme, c'est relativement simple, c'est cette idée d'une troisième voie, c'est cette idée aussi que la politique ne se fait pas sans le peuple. Et là, bon, du référendum de 2005, où l'UMP était massivement pour le oui, et que les Français ont massivement rejeté ensuite, jusqu'à 2024, où vous avez eu une compromission, mais complètement aberrante, ou encore 2023, lorsque les députés LR, pour des motifs, vous savez, il y a toujours des bons motifs, pour ne pas voter une motion de censure et finalement conserver ses fauteuils. Bon, les Républicains, aujourd'hui, c'est cela. Et à partir de là, dont acte, le Rassemblement National, sur le fond comme sur la forme, est le seul parti aujourd'hui sur la scène politique française à se comporter et à agir en gaulliste.
Alors, c'est un peu prématuré pour évoquer éventuellement les élections, en tout cas l'élection présidentielle, mais on voit les sondages qui sortent, qui valent ce qu'ils valent, hein, on est encore à 17 mois de l'élection. Mais ces sondages portent Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Là encore, ce sera un petit peu conditionné aux affaires de justice en cours concernant Marine Le Pen. Mais supposons qu'on se retrouve au second tour. On parle beaucoup d'un second tour qui pourrait opposer le RN, le représentant ou la représentante du RN, et Jean-Luc Mélenchon. Pour vous, c'est un petit peu, arriver, sans jeu de mots aucun, à une extrémité et devoir faire des choix.
Encore une fois, je ne considère pas que nous sommes extrêmes. J'invite les Français aussi à regarder quel était le programme notamment de la droite dans les années 80 et à comparer avec notre programme aujourd'hui. C'est globalement le même. Nous ne sommes pas, à mon sens, dans la catégorie extrême droite. Donc il n'y a pas le choix entre un extrême et un autre. Vous avez le choix entre le camp national représenté par Marine Le Pen et Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon qui représente aujourd'hui tout ce que l'on ferait de mieux en matière d'anti-France. Donc le choix, finalement, il est plus global. La France sera en 2027, surtout dans ce cas de figure, à la croisée des chemins. Deux choix d'avenir, deux choix qui vont déterminer les 50, les 100 prochaines années de notre pays. Donc, chacun devra prendre position. Nous, ou le chaos perpétuel pour les 50 ou 100 prochaines années.
On parlait du gaullisme tout à l'heure. Le gaullisme, ça a été aussi une façon de gouverner, prévoir, imaginer, accompagner souvent. Comment le Rassemblement National, le RN, va se positionner ? Est-ce que là aussi, le fameux gouverner, c'est prévoir ? Est-ce que c'est une politique qui va se mettre en place à long terme pour les enjeux futurs ? Ou est-ce qu'on va rester un petit peu dans cette politique que l'on a aujourd'hui, une politique où on est finalement à très court terme ?
C'est précisément le cœur du problème depuis 40 ans. On ne fonctionne que sur du court-termisme. La politique, c'est aussi la capacité d'incarner une vision. Je pense que bon nombre de nos concitoyens, et c'est vrai au national, mais aussi on y reviendra au local, je commence à introduire, nos concitoyens apprécient d'avoir des personnalités politiques qui ne sont pas simplement des gestionnaires, mais bien des visionnaires, des personnes qui vont incarner leurs fonctions, qui vont être capables de donner un cap, alors qu'on soit d'accord ou non. Peu importe, l'idée c'est qu'ensuite, face à la richesse de notre démocratie, il y a une capacité d'avoir un débat sur cette vision. Donc non, nous nous inscrivons dans cette politique du temps long, c'est l'idée qu'il faut effectivement des propositions dans l'immédiat, mais aussi la capacité de se projeter, de dire quelle France nous voulons dans 20 ans, dans 50 ans, comment imaginons-nous notre pays demain ? Et ça c'est la vraie et grande politique, peut-être celle qui manque le plus dans ce monde de court-termisme qu'est notamment le macronisme au sein de ce pays.
Avec des enjeux géopolitiques, avec une guerre que l'on voit presque omniprésente aujourd'hui dans les médias ou dans les conversations, donc une grande inquiétude face à la Russie, évidemment. Et puis, les inquiétudes du quotidien, comment remplir son caddie, comment vivre décemment, comment se chauffer, on en parle beaucoup en cette période hivernale. Il va falloir finalement que le Rassemblement National, là encore sans jeu de mots, mais soit sur tous les fronts.
Exactement, mais c'est ce que nous attendons d'une classe politique. Au départ, encore une fois, j'aime bien réaliser cette comparaison. Nous attendons des personnalités politiques et pas simplement des gestionnaires qui se contentent de se féliciter de connaître par cœur les dossiers, mais de ne rien en faire aussi derrière. Donc oui, nous devrons être sur tous les fronts. Mais si nous n'étions pas prêts à cela, on ne se lancerait pas. Encore une fois, que cela soit aux élections présidentielles à venir, aux élections législatives anticipées ou aux élections municipales, puisqu'encore une fois, il y a de très nombreux problèmes à régler. Il faut être sur tous les fronts. C'est difficile, mais on sait pourquoi on se lance, sinon on n'irait pas. C'est aussi simple que cela.
On voit aussi une mutation au sein du Rassemblement National. Ça va nous amener très directement au municipal, mais un rajeunissement des candidats, une féminisation des candidats. Est-ce que là aussi, le Rassemblement National fait sa mue, si vous me permettez le terme ?
Je serais même plus large que cela. L'idée n'est pas de mener une politique de jeunisme ou d'aller contre les personnes un peu plus âgées. L'idée centrale, c'est que le RN, et quand vous regardez la composition du parti, c'est le cas factuellement, le RN est le seul parti à vraiment rassembler toute la France. C'est qu'effectivement, vous avez des candidats jeunes. Vous avez reçu il y a quelques semaines Blanche Le Goffic, candidate à Lannion. Vous avez des candidats un peu plus âgés. Vous avez des candidats qui sont encore en activité. L'idée, c'est que nous arrivons, et nous avons cette capacité, à rassembler l'ensemble des Français, de toutes conditions, de toutes origines, et c'est peut-être même ce qui agace le plus nos adversaires. J'ai vu encore hier une photo des Républicains dans laquelle, effectivement, bon, ce sont toujours les mêmes têtes. On retrouve l'idée d'un parti de barons. Mais c'est le cas aussi dans de nombreux autres partis. Le seul parti qui ferait peut-être exception, c'est la France Insoumise. Mais en règle générale, c'est bien le Rassemblement National aujourd'hui qui a cette capacité de rassembler, parce que nous parlons à tout le monde et nous sommes capables de répondre sur tous les sujets, d'apporter des solutions, mais aussi d'être clairs sur nos volontés.
D'un point de vue politique, Emmanuel Macron a, depuis son premier quinquennat, beaucoup fait évoluer la vie politique. D'aucuns lui reprochent d'avoir quand même cassé les partis traditionnels. On pense au PS, on pense à LR, et évidemment. Demain, est-ce qu'il y aura une union des droites, pour faire simple? Est-ce qu'on peut imaginer que des gens de LR viennent, pourquoi pas chez vous? Certains l'ont fait avec Éric Ciotti, qui s'est rapproché du Rassemblement National. Est-ce qu'on peut imaginer cette union des droites que d'aucuns appellent de leur vœu?
Mais vous savez, je ne vais que paraphraser Marine Le Pen, qui a très bien répondu à cette question. Et c'est aussi d'ailleurs un sujet très, très gaulliste, si je puis dire. L'idée centrale, ce n'est pas de réaliser l'union des droites, c'est de réaliser l'union des patriotes. Nous avons aujourd'hui des personnes de toutes obédiences qui se sont revendiquées de droite, qui se sont revendiquées de gauche, ou qui n'avaient pas d'étiquette du tout, qui nous rejoignent. L'idée centrale, ce n'est pas d'avoir un discours pour rassembler toute la droite. Nous ne sommes pas là pour sauver un clivage politique. Nous sommes là pour sauver un pays que nous aimons, un pays qui a 1500 ans d'histoire, et c'est grandiose, nous en sommes fiers. Et donc, à partir de là, le cœur de la question, comme l'a très bien dit Marine Le Pen, c'est de rassembler les patriotes en règle générale, tous ceux qui aiment la France, qui aiment ce pays.
Il ne faudra pas décevoir. On le voit aujourd'hui, on entend beaucoup dans le discours des Français des voix qui s'élèvent pour dire « oui, on a essayé la gauche, on a essayé la droite, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi pas le Rassemblement National, finalement ?» Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre?
J'aurais envie
Français
de leur répondre que si nous nous engagions pour décevoir, on ne s'engagerait pas. Tout simplement. Et puis encore une fois, notre engagement n'a pas les mêmes motivations que nos adversaires. Nos adversaires, et je l'ai moi-même connu, en ayant été 7 ans dans un autre parti, le cœur de leur motivation, c'est de savoir quel poste ils auront, de quelle façon ils pourront avoir des revendications. À aucun moment, ils ne se posent la question concrète de comment améliorer le quotidien de mes concitoyens, comment m'engager pour demain servir mon pays. Nous, Rassemblement National, les motivations ne sont pas les mêmes. Nous assumons l'idée que demain, en cas de dissolution, eh bien, nous aurons plus de députés, mais parfois aussi, vous avez des députés qui ne sont pas réélus, même si, statistiquement, nous savons que nous aurons la majorité à l'Assemblée nationale. Mais nous sommes prêts à ces sacrifices, parce que ce qui nous motive, ce n'est pas une carrière, ce n'est pas une motivation individuelle, c'est l'idée de servir quelque chose qui est plus grand que nous, à savoir la France.
Servir la France, c'est aussi parler avec les Français. La fameuse phrase, la présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'un pays et d'un peuple également. Il y aura des choses à dire aux Français qui ne seront pas toujours agréables. Là, on voit la situation budgétaire de la France. Le budget de l'État est en passe de ne pas être voté. En tout cas, c'est ce que disent les différents observateurs. Est-ce que vous imaginez demain être obligé de dire aux Français, attention, la route va être longue et elle va être compliqué.
Mais la réalité, c'est que nous assumons déjà ce type de discours. Encore une fois, je pense que ce que ne supportent plus nos concitoyens, c'est d'entendre des discours qui se veulent rassurants et puis des promesses saupoudrées d'une langue de bois que plus personne ne supporte. Je pense qu'aujourd'hui, les Français et nous-mêmes attendons de la franchise. Poser une question.
Faut oublier aujourd'hui les éléments de langage, faut faire de la réelle politique, comme on dit.
Pour ma part, je ne suis pas très friand des éléments de langage, même si c'est essentiel aussi. Non, les Français veulent le retour d'une vraie, grande et belle politique, et il n'y a que le Rassemblement National aujourd'hui qui apporte sur le fond et sur la forme, vous le voyez y compris dans nos débats. Voilà, l'idée, c'est de dire la vérité, de dire que ce sera difficile, mais qu'on y arrivera, parce que, et petit rappel historique, notre pays, dans sa longue histoire, a connu parfois des périodes bien plus difficiles, et nous nous en sommes sortis. Donc encore une fois, en votant bien, en faisant parvenir le Rassemblement National au pouvoir en 2027, et avant dans nos communes et à l'Assemblée et dans toutes les autres instances, eh bien nous aurons la capacité de relever ce pays, parce que nous travaillerons ensemble pour y parvenir.
J'ai envie, avant d'aborder la question des municipales, de vous poser une question. J'allais presque dire littéraire. Il y a en ce moment deux livres très en vogue. Le livre d'un certain Nicolas Sarkozy qui bat des records, dit-on, de vente et de précommande. Et puis il y a le livre de Jordan Bardella, on l'a vu, qui fait un succès aussi important. Tout ça nous amène à la parole de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui a eu contact avec Marine Le Pen et qui a promis à cette dernière de ne pas faire front républicain, c'est-à-dire de ne pas appeler un front républicain. Et est-ce que justement cette ce fameux plafond de verre va voler en éclats selon vous ? Est-ce que on tourne une page aussi politique ?
Je pense encore une fois que ce plafond de verre a en réalité déjà disparu puisqu'il a été remodelé artificiellement en 2024. Si vous suivez le fonctionnement normal des institutions, nous aurions dû avoir normalement une majorité à l'Assemblée nationale en 2024. Et ce sont des accords d'appareil purement politiciens qui ont permis aux Républicains, au Parti Socialiste, à la France Insoumise aussi, de sauver leur siège et en fin de compte d'avoir aujourd'hui une Assemblée qui n'aurait rien à envier à la 3e ou à la 4e République, qui est absolument ingouvernable, impossible de trouver une majorité. Et donc oui, l'idée de ne pas appeler à faire un front républicain, ou même, j'ai aussi vu cela, appeler à faire un front républicain contre la France insoumise, c'est une bonne nouvelle. Mais j'ai presque envie de vous dire que nous n'aurions pas eu besoin de la bénédiction de Nicolas Sarkozy pour réussir, parce que ce qui nous porte, encore une fois, ce ne sont pas des accords d'appareil politicien, mais bien le peuple, la volonté populaire, et nous savons aujourd'hui, nous le sentons, vous avez vu, combien de personnes à Saint-Malo pour la venue de Jordan Bardella ? Bon, nous savons aujourd'hui que le peuple nous attend et nous serons au rendez-vous.
Alors, être au rendez-vous, c'est évidemment passer par la case municipale. Ce sont les élections qui vont être un peu considérées comme des élections test, avec un danger, c'est que ça se transforme en une forme de référendum pour ou contre le président de la République ou en tout cas le gouvernement. Comment aller parler sur le terrain ? J'imagine que vous arpentez le terrain depuis plusieurs jours avec votre liste Rassembler l'Orient et vos militants. Comment arpenter le terrain ? Comment aller convaincre les électeurs, y compris ceux qui sont farouchement anti-RN?
Alors, première bonne nouvelle, nous nous rendons compte sur le terrain qu'à part quelques révoltés, il n'y a globalement plus aujourd'hui de citoyens qui va s'identifier comme absolument anti-RN. Mmh. Tout le monde est ouvert au dialogue, et c'est d'ailleurs une très bonne nouvelle, puisqu'encore une fois, c'est ce qui fait la richesse de notre démocratie. Nous, notre façon de procéder, elle est relativement simple. Je sais qu'elle est partagée par bon nombre de candidats de notre camp. L'idée centrale, c'est de rencontrer les Lorientais dans leur quotidien. Donc depuis juillet, soit avant même que je sois investi, puisque de juillet à octobre se posait la question de qui serait la tête de liste, nous avons rencontré vraiment dans le quotidien de nos concitoyens eh bien, leurs problématiques, des rendez-vous individuels ou en petit comité directement chez eux. Jamais médiatisé sur les réseaux sociaux, parce que je considère que le quotidien des gens ne concerne pas forcément le grand public. C'est là peut-être la différence avec bon nombre de mes adversaires qui pensent au dernier moment s'acheter une politique du quotidien en publiant massivement sur les réseaux sociaux, qu'ils ont rencontré du monde, qu'ils ont organisé des réunions publiques. Nous préférons nous confronter directement à nos concitoyens en petits comités, ce qui permet d'avoir des langues qui sont déliées, et donc derrière vous identifiez le cœur des problèmes. Parce que dans une réunion publique ou dans des rendez-vous un peu plus conséquents, l'effet de masse, l'idée aussi que vous êtes potentiellement filmé ou autre, fait que les gens ne vont pas aborder le cœur du problème, et même pire, vont potentiellement soutenir vos idées alors qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Nous assumons l'idée d'être au maximum dans la proximité, et c'est d'ailleurs à contre-pied de nos adversaires que de vouloir défendre l'idée d'un programme qui va principalement s'ancrer dans le quotidien des Lorientais, plus que dans ce que moi j'appelle les grands projets pharaoniques que nos adversaires défendent, qui vont coûter des millions et qui ne règlent pas les problèmes fondamentaux du quotidien de nos concitoyens.
Alors le quotidien, c'est pouvoir se loger aujourd'hui. Hein. On entend beaucoup d'inquiétudes autour du logement ici, particulièrement en Bretagne. C'est le cas aussi à Lorient en particulier. Le logement et puis aussi comment bien vivre, comment remplir son caddie. Le pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est un problème avec l'inflation qui repart à la hausse, l'inflation sur l'alimentation en particulier là aussi. Comment apporter de l'espoir et surtout comment apporter des solutions, de véritables solutions pour que le quotidien soit moins contraint pour nombre de Français ?
Alors, les solutions se font sur le fond, mais aussi et surtout sur la forme. Sur la forme, notamment à Lorient, il y a un sérieux problème d'incarnation du pouvoir. Nous avons un maire qui a été élu en 2020 sur une étiquette divers droite et qui derrière n'a pas assumé cette étiquette, puisqu'entre-temps, il est entré dans un gouvernement macroniste. Entre-temps, il a pris beaucoup de plaisir à appeler à voter pour Emmanuel Macron en 2022 et à se prendre en photo avec lui à plusieurs reprises. Bon, c'était le sauveur de la France, visiblement, encore en 2022. Il a encore pris un grand plaisir, il y a quelques jours, à se prendre en photo avec Jean-Yves Le Drian et Norbert Méthéry, son ancien adversaire, qui est visiblement maintenant son meilleur ami. Donc, en l'occurrence, il y a un problème de forme qui a réglé. Et encore une fois, c'est comme à l'échelon national, c'est de la clarté. Et c'est donc de la proximité. Cette idée de proximité, elle est essentielle. Sur le fond, c'est relativement simple. Identifier chaque centime qui, aujourd'hui, appartient aux Lorientais et qui est dans les caisses de la commune et qui ne revient pas à terme aux Lorientais. Exemple que j'aime rappeler, les 230 000 euros qui partent dans le projet Kéroman plutôt que d'être investis directement pour Lorient, typiquement afin d'embaucher plus d'agents de police municipale pour assurer une meilleure sécurité, ou mieux régler la question du logement, ou mieux régler la question des infrastructures, mieux régler la question du manque de personnel et d'agents publics, etc., etc. Vous voyez, ce sont plein de petites idées qui, cumulées, permettent de créer un grand projet. Et on nous pose assez régulièrement la question, notre projet sera publié dans les prochains jours, d'ici une semaine, 15 jours, de façon à ce que l'ensemble de nos concitoyens puissent découvrir toutes nos mesures, même si l'idée centrale, encore une fois, c'est la proximité, c'est l'idée d'une ville plus propre à Lorient, c'est l'idée d'une ville plus sûre, ça c'est le cœur du sujet, et c'est aussi l'idée d'une ville plus attractive.
Alors deux questions, il va falloir financer tout ça évidemment, donc vous avez commencé à donner quelques pistes, en tout cas d'économie ou de redirection de l'argent public, hein, si on peut le dire ainsi. Et puis il y a aussi le sujet de comment faire mieux avec moins, parce que c'est un petit peu la grande question du moment.
Il y a de très nombreuses solutions. En un seul conseil municipal, j'en ai déjà identifié beaucoup. Typiquement, il y a un grand problème de parking à Lorient. Et quelle surprise lorsque nous découvrons que pour faire survivre les parkings sous-exploités, notamment de la place d'Armes, vous avez une dépense de près de 700 000 euros pour compenser toutes les places de parking qui ne sont pas utilisées. 700 000 euros. Bon, la majorité s'est félicitée, avant c'était 900 000 euros, très bien. Là, vous avez des solutions qui ne sont pas forcément attendues, parce que si vous modifiez la politique du parking à Lorient, si vous modifiez les horaires des places de stationnement et des places de parking à Lorient, notamment de la place d'Armes, vous pouvez à terme économiser 700 000 euros. C'est pas anodin, ça vous permet de faire de grandes choses.
Voilà, là aussi c'est de l'argent qui peut être redirigé sur d'autres
politiques.
Là
nous avons de grandes sommes, et ensuite, et là je reprendrai les propos de Jean-Philippe Tanguy, il n'y a pas non plus de petites économies. De la même façon, j'avais questionné le maire et son adjoint lors du dernier conseil municipal, car ils avaient décidé de faire appel à une société tierce pour mener des politiques de conseil à l'écologie et au développement durable pour un coût de près de 20 000 euros pour le contribuable lorientais. Bon, ma question était assez simple. Je pense très sérieusement que cela peut être internalisé. Bon, à part une réponse par des anathèmes, vous êtes contre l'écologie, vous n'avez rien compris, de toute façon c'est un débat de café de comptoir. Vous voyez, c'est vide, c'est vide, parce qu'au fond, je ne sais pas si le but de cette politique c'est de faire plaisir aux amis ou simplement de se laisser dicter un petit peu sa conduite. C'est aussi malheureusement le problème depuis une quarantaine d'années, un politique qui de plus en plus est tant soumis aux normes qu'il a peur de taper du poing sur la table et de réaffirmer ce qu'il est, un personnel politique qui est élu et donc légitime. Donc des grandes, des petites économies, ça se trouve partout. Et ça assume aussi, effectivement, l'idée d'avoir un peu de courage politique.
Alors, on va aller sur la sécurité. On sait que c'est le cheval de bataille du Rassemblement national, mais c'est aussi une grande inquiétude aujourd'hui des Français, des Bretons même. Il y a une montée de l'insécurité avec notamment le trafic de stupéfiants. On le voit dans de grandes villes comme Rennes, Brest, et j'y ajoute Lorient. Là aussi, il faut avoir une politique de fermeté, d'anticipation. Il faut donner plus de moyens à la police ou avoir plus d'enquêteurs et quelque part aussi à la justice.
Alors, la réalité, c'est qu'un maire a beaucoup de pouvoir en amont, beaucoup moins en aval. Le cœur du problème, ça reste celui du narcotrafic. Tant que vous ne réglez pas le problème du narcotrafic, vous ne réglez pas tous les problèmes qui entourent le narcotrafic. À Lorient, par exemple, vous avez une augmentation en 8 ans de 50% du nombre de cambriolages, de 7% du nombre d'agressions sexuelles, etc., etc. Le cœur de tout cela, c'est le narcotrafic. À titre d'exemple, aujourd'hui, vous pouvez avoir du cannabis pour 50 euros le gramme. Ça fait 80 000 euros par point de deal. Ces 80 000 euros, dans quoi ils les réinvestissent ? Eh bien, dans la délinquance et la criminalité. Donc, ce sont des problèmes à prendre à bras-le-corps et sur tous les plans. Le problème des gouvernants aujourd'hui, c'est qu'ils veulent surtout s'attaquer, ou pas d'ailleurs, hein, parce que du côté de l'extrême gauche, de Damien Girard, etc., pour eux, la solution, c'est de tout légaliser. Donc bon, à partir de là, hein, légalisons tout ce qui est interdit aujourd'hui, et puis comme ça, bon, ça annule les problèmes. Le cœur du problème, c'est que nous nous attaquons à l'offre, mais jamais à la demande. Il faut aussi taper dans les consommateurs. Derrière, il faut aussi assumer des politiques de fermeté. Malheureusement, le maire n'a pas tous les pouvoirs en la matière, mais nous en avons tout de même. Effectivement, identifier les points de deal, prendre des arrêtés municipaux pour, on va dire, mettre à mal ces points de deal, et puis aussi travailler avec tous les partenaires possibles et identifiables, que ce soit la préfecture, que ce soit le parquet, la police nationale. Vous avez un grand nombre d'acteurs qui peuvent travailler en corrélation avec le maire, mais vous l'avez très bien dit aussi, toute personne qui, en tant que maire, prétendrait régler à lui tout seul le narcotrafic serait bien prétentieux, parce que malheureusement, c'est un problème qui est national. En tant que potentiel futur maire, je n'ai pas nécessairement la main sur la douane, typiquement. Douane qui d'ailleurs a très récemment, pas plus tard qu'hier, mené une grande opération pour récupérer plus d'une centaine de vêtements de contrefaçon. Encore une fois, on se demande bien qui a pu financer cela en amont. Peut-être mettre le doigt sur le narcotrafic lorientais qui est en explosion.
Alors, il y a aussi la prévention, les politiques de prévention sur le terrain pour pas que les jeunes sombrent. Alors, je dis les jeunes parce qu'ils sont souvent assez malléables, sombrent dans le trafic. Il y a aussi la question sociale. Là encore, on a souvent des personnes qui sombrent dans le trafic de stupéfiants parce que, tout simplement, ça rapporte de l'argent et de l'argent facile.
Oui, vous avez en France environ 200 000 personnes qui vivent aujourd'hui du narcotrafic. Je n'irai pas jusqu'à leur trouver des excuses, hein, parce que si chacun allait dans l'illégalité en prétextant que c'est à cause des difficultés, ce n'est pas la réponse. Mais l'idée tout de même aussi, vous l'avez très bien dit, c'est un accompagnement au quotidien. On ne règle pas la question du narcotrafic si on ne travaille pas aussi via le côté éducatif. Donc ça passe par de l'accompagnement, par des explications dans les milieux scolaires, dans les milieux professionnels, dans les milieux civiques et associatifs. C'est cette politique un petit peu des petits pas qui fait, et nous retrouvons l'idée du temps long, de la politique du temps long, que la politique ne se fait pas seulement sur un temps court, mais aussi sur une vision de long terme. Et cette vision de long terme, eh bien, c'est l'accompagnement au quotidien, c'est l'éducation, c'est d'expliquer en quoi ce narcotrafic est mal, en quoi y participer est mal, et finalement met à terme en danger l'ensemble du tissu social de notre société.
Il nous reste une poignée de secondes, Théo Thomas. J'avais envie de vous entendre, vous voyez, ça va vite, hein, la matinale. J'avais envie de vous entendre aussi sur le RPR, parce que quelques auditeurs m'ont interrogé en me disant, mais le RPR, c'est quoi ? C'est le retour... Alors, un auditeur qui a beaucoup d'humour m'a dit, mais c'est finalement le retour de Chirac. Alors, je vous pose la question.
Alors, je vais me permettre une comparaison. Avant, je vous ai apporté une petite note parlementaire du 17 décembre 1899 qui compare le centre droit de l'époque des nomades qui, en fonction du centre, de la gauche ou de la droite, effectivement, déplacent sa caravane pour être toujours le mieux placé, le plus proche d'un oasis. Ces nomades aujourd'hui, ce sont les républicains. Voilà. L'opposé du gaullisme. L'idée aujourd'hui du RPR, c'est de faire revenir le gaullisme sur le devant de la scène. C'est parce que nous l'incarnons et l'RPR en est l'étiquette la plus fondamentale et nous sommes fiers de la porter aujourd'hui.
Et c'est là-dessus que l'on va devoir se quitter. Théo Thomas, délégué départemental jeune du Rassemblement National du Morbihan, candidat RN et donc RPR au municipal à Lorient sur la liste Rassembler Lorient. Vous étiez notre invité politique ce matin pour cette première radio. Vous voyez, ça s'est très bien passé. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.